Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Pendant 2 mois, 2 millions de soldats russes ont piétiné d'impatience à 60 kilomètres de la capitale d'Hitler.
Bonjour à toutes et à tous. Journée hautement symbolique que ce 9 mai en pleine guerre en Ukraine. Une journée qui est à la fois la fête de l'Europe, mais qui est aussi la date choisie par Vladimir Poutine pour marquer la victoire des troupes soviétiques sur les nazis en 1945. À Berlin, ville marquée au fer rouge par ce conflit, la communauté russe célèbre tous les ans le 9 mai et le mémorial de Treptow est le monument de cette commémoration. À Berlin, Déborah Berlioz.
Le mémorial soviétique de Treptow ne fait pas dans la demi-mesure. Situé au milieu d'un parc berlinois, l'ensemble est colossal, tout en symétrie, dans la plus pure tradition de l'architecture communiste. Un immense terre-plein est dominé par une statue de 12 mètres de haut. Elle représente le soldat libérateur qui porte un enfant dans ses bras et terrasse la croix gammée de son épée. De chaque côté, on peut voir 6 bas-reliefs célébrant le courage du peuple soviétique, avec des citations de Staline sur les côtés. En tout, 40 000 mètres cubes de granit ont été nécessaires pour achever la construction de l'ensemble. Inauguré en 1949, ce mémorial rend hommage aux 80 000 soldats soviétiques tombés lors de la conquête de Berlin en 1945. Les corps n'ayant pas été rapatriés, ce mémorial sert aussi de cimetière militaire et quelques 7 000 soldats y sont enterrés. 3 autres monuments de ce genre ont été érigés dans la capitale. Lors de la réunification, la République fédérale s'est engagée à entretenir ces lieux de souvenir. Mais avec la guerre en Ukraine, ces monuments sont plus controversés que jamais. Dernièrement, des inconnus ont vandalisé le mémorial de Treptow en peignant le mot « why », pourquoi en anglais, sur le socle de la statue. Quant au soutien de Poutine, il pourrait utiliser le mémorial pour en faire un immense show de propagande le 9 mai. Si ce jour est le plus important pour la communauté russe, c'est tout de même davantage le 8 mai qui est célébré ici, notamment par les mouvements antifascistes. Pour autant, ce n'est pas un jour férié. Cela l'était dans l'ancienne Allemagne de l'Est dès 1949, mais pas à l'Ouest. Il faut dire que la République fédérale a mis du temps à parler de son passé nazi, et même si l'on reconnaît aujourd'hui que le 8 mai était bien une libération du fascisme, certains maintiennent que les Allemands ne peuvent pas fêter une libération dont ils n'ont pas été les acteurs.
C'était la parade sur la place Rouge à Moscou aujourd'hui pour le président russe. L'utilisation de cette grande guerre patriotique à des fins politiques est plus que jamais d'actualité. Mais cette sacralisation de la mémoire ne résiste pas toujours aux intérêts économiques. Par exemple, à l'ouest de Moscou, siège d'une bataille historique de la Seconde Guerre mondiale, les habitants s'opposent à un vaste projet immobilier. C'est le reportage sur place d'Estelle Levray.
En octobre 1941, les troupes allemandes cherchent à encercler la capitale russe. Sur la ligne de défense ouest, les habitants de Zvenigorod et des villages voisins fuient les combats et se réfugient à Doudino. Mère Varvara indique le vallon en contrebas de l'église.
La guerre patriotique s'est déroulée ici même. Les nazis ne sont pas passés sur cette rive de la Moskova. Ils étaient sur la rive opposée. Toutes les maisons étaient criblées de trous. Le sol était jonché de balles. Notre artillerie se tenait juste là. Les gens ont commencé à défendre la patrie. La patrie est plus grande que l'État. C'est quelque chose d'intime, de profond, d'intérieur. Quelque chose pour lequel le peuple est prêt à se battre et mourir.
La bataille de Moscou, marquée par une contre-offensive soviétique victorieuse, est considérée comme stratégique sur le front de l'Est. Pourtant, en 2020, en plein confinement, les autorités régionales ont signé un décret autorisant les constructions sur ce territoire historique. Une décision qui a scandalisé les résidents locaux. Margarita habite dans une commune voisine.
En tant que résidente locale, je ne veux pas que le village se transforme en une zone sans fin de cottages. Nous aimons cet endroit parce qu'il y a de l'air, des champs et des espaces vides. Si tout est construit, tout le charme sera perdu. C'est aussi un lieu d'histoire dont la mémoire a déjà été partiellement oubliée. C'est très triste que nous n'apprenions pas de nos erreurs.
L'appétit des promoteurs immobiliers pour ce territoire attrayant ne date pas d'hier. Il remonte aux années 2000. Pour contrecarrer leurs plans et préserver la mémoire des lieux, le village se lance alors dans la construction d'une église et d'un mémorial aux victimes de la guerre. Mère Varvara.
Les habitants se sont rassemblés et ont décidé d'ériger l'église de la Victoire ici, dans le ravin. Ils ont planté une croix et ont commencé à construire petit à petit. Tout ici a été réalisé par le peuple.
Au fil du temps, des fortifications d'époque sont reconstituées afin de créer un musée en plein air et des itinéraires de mémoire. Margarita participe comme volontaire dans le projet de défense du patrimoine. Face à la décision de 2020, les habitants viennent d'obtenir une première victoire.
Grâce à la participation active des habitants, Dounino est désormais tiré d'affaire, mais pas les villages de Marino et Salkova. Nous continuons à nous battre.
À 22 ans, Véronica connaît parfaitement l'histoire de son village pendant la guerre. Sa grand-mère, enfant à l'époque, a perdu son père au front. Elle lui a tout raconté.
Elle a 88 ans maintenant, mais elle se souvient encore de tout. Et chaque jour, elle commémore. Elle fête le 9 mai, bien sûr. Ainsi, elle observe cette mémoire, elle la fait vivre. Je trouve ça bien. C'est notre histoire et on doit s'en souvenir.
Un sentiment partagé par la majorité des Russes. Presque toutes les familles ont perdu un proche pendant la guerre.
La Russie qui met en avant le spectre du nazisme pour justifier la guerre en Ukraine, on en a encore beaucoup parlé à l'occasion d'une interview retentissante du ministre russe des Affaires étrangères. C'était la semaine dernière sur une grande chaîne de télévision italienne, des propos scandaleux qui posent aussi la question du rôle des journalistes en plateau. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
L'émission de Zona Bianca appartient à Mediaset, l'empire de Berlusconi. Depuis une semaine, elle fait parler d'elle en Italie et dans le monde entier. Le 1er mai, elle a reçu le ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov a répété sa thèse sur la soi-disant nazification de l'Ukraine en démontant les arguments du président Zelensky.
Quand il dit qu'il ne peut pas y avoir de nazification parce qu'il est juif, mais si je me souviens bien, je pourrais me tromper, mais Hitler aussi avait des origines juives, donc ça ne veut rien dire. Depuis quelque temps, on entend le sage peuple juif nous dire que la majorité des antisémites sont justement les juifs.
Les propos du chef de la diplomatie russe sont habituels. Mais pourquoi le journaliste ne le recadre pas? Il considère que ça n'est pas son rôle. À la télé italienne, l'idée, c'est que pour l'équilibre, il faut un pour et un contre. Vous invitez un géophysicien sur le réchauffement climatique? Il faut un intervenant qui dit que c'est une invention. Ça fera de la contradiction et du buzz. Sur les plateaux télé en ce moment, on a donc souvent un pro-russe et un pro-ukrainien. Et ça commence à poser problème. Parce que les Italiens sentent bien que tout ça n'est pas qu'une question de point de vue, qu'il y a des faits. Le sociologue Alessandro Orsini, La Voix de Moscou, défend par exemple l'idée que pour saisir les enjeux actuels, il faut comprendre le début de la Seconde Guerre mondiale. Okay.
Elle n'a pas éclaté parce qu'à un moment, Hitler a décidé coûte que coûte d'attaquer la France, l'Angleterre, la Pologne. Ce qui s'est passé, c'est que certains pays ont créé des alliances militaires, dont une avec l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN.
C'est cet article qui dit que si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent le défendre. Ensuite,
le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et il se crée un effet domino dans lequel Hitler n'avait aucun intérêt et dont il ne s'attendait même pas à ce qu'il arrive.
Vous nous racontez tout ça pour faire un parallèle avec aujourd'hui?
Vous faites un parallèle avec aujourd'hui? Oui, c'est la seule remarque que cette histoire révisionniste inspire aux journalistes. 1938, l'invasion de l'Autriche, des Sudètes, tout ça, niente. Le type est peut-être payé pour être le relais de la Russie, il y a d'autres cas connus. Il dit peut-être ça juste par bêtise. Le problème est qu'il est un invité régulier de nombreuses émissions. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même de dire les pires horreurs. C'est pourquoi la sénatrice Daniela Santanche et son parti Fratelli d'Italia, parti néofasciste, s'opposent aux sanctions demandées par le Parti démocrate contre Mediaset.
La liberté de la presse et la liberté de parole sont des droits inaliénables en démocratie. Un droit que nous continuons à défendre avec force parce que nous devons laisser la liberté de parole à tout le monde, même à ceux qui pensent de façon que nous estimons injustifiable.
Donc la chaîne de Berlusconi ne sera pas sanctionnée, alors que Vladimir Poutine lui-même s'est excusé auprès d'Israël après les affabulations de son ministre. En Italie, l'interview en scandalise beaucoup, mais les stars journalistiques du petit écran la défendent. Enrico Mentana, le marathonman des soirées électorales, salue un scoop que beaucoup auraient voulu faire. Le directeur de l'information de Mediaset, lui, affirme même avoir produit un document historique. Et puis il y a Mario Draghi, le sage président du Conseil. Draghi a critiqué le côté peu professionnel de cette tribune donnée à Lavrov, sans contradicteur. Mais en Italie, il y a la liberté d'expression, conclut-il. Une liberté tellement usée qu'on ne sait plus quelle valeur elle est censée servir.
La mémoire de la Seconde Guerre mondiale et ses tabous. À Strasbourg, dans l'Est de la France, une commission indépendante a enquêté pendant 6 ans sur le rôle de la faculté de médecine dans les crimes nazis, les expérimentations et les crimes perpétrés sur les détenus juifs, homosexuels et tziganes. Leur conclusion est sans appel, l'institution dans son ensemble est responsable. À Strasbourg, Angélique Ferrat.
L'Alsace a une histoire compliquée. Française après la Première Guerre mondiale, elle redevient allemande en 1940 et est même annexée. Strasbourg fait alors partie du Reich et le drapeau nazi flotte sur la cathédrale. L'université de Strasbourg devient une institution au service des recherches nazies sur les gaz de combat ou la race humaine. On le savait depuis longtemps, le camp de travail de Schirmeck et le camp de concentration du Struthof-Natzweiler, tous deux situés dans les Vosges, à environ 50 km de Strasbourg, servaient de lieu d'expérimentation. Florian Schmalz, historien à l'Institut Max Planck pour l'histoire des sciences à Berlin, coprésident de la commission d'enquête.
Il y a eu 4 types d'expériences menées. D'abord, il y a eu des expériences avec le gaz moutarde qui cause des blessures sur la peau. Ensuite, il y a eu aussi des expériences avec le gaz phosgène par Otto Bickenbach. C'est un poison pour les poumons. Il était déjà utilisé lors de la Première Guerre mondiale. Et puis ces médecins ont aussi fait des expériences sur les maladies contagieuses comme le typhus, la fièvre jaune. Enfin, il y a eu un épisode très connu, la déportation de 86 juifs d'Auschwitz vers le camp de Natzweiler, puis leur meurtre pour qu'un médecin se constitue une collection de squelettes juifs. Tout ça pour illustrer ses cours.
Ces recherches étaient bel et bien connues, mais la commission a découvert que toute l'université participait à cette macabre stratégie. Les communications étaient par exemple quotidiennes entre le camp et l'université. Des expériences ont été conduites aussi en dermatologie, en psychiatrie, dans le département de médecine légale, c'est-à-dire dans la ville de Strasbourg même. 40% des médecins de l'université étaient alsaciens ou mosellans, c'est-à-dire c'était des locaux, et certains partageaient la vision nazie. La commission a aussi réalisé un travail d'identification des victimes qui était anonyme jusque-là. Ceci a permis de donner des noms à 252 personnes. On retrouve Florian Schmalz.
Au début, les expériences ont été menées sur des prisonniers de droit commun allemands dans ce camp. Puis il y a eu des homosexuels. Et vers la fin, il y a eu des tziganes qui sont arrivés d'Auschwitz à la demande des médecins de l'université qui voulaient des sujets pas trop mal en point. Donc ils n'avaient pas passé trop de temps dans des camps, des sujets plus jeunes pour que les résultats des expériences puissent être comparés à ceux de jeunes soldats allemands.
Geneviève Glanzmann a découvert le passé de son oncle Alphonse Glanzmann il y a quelques mois. Il était interné en psychiatrie, il a failli être euthanasié et il a survécu.
On ne nous a jamais parlé de cette histoire, sinon qu'on savait qu'il était en hôpital psychiatrique, mais donc après le retour de la guerre, mais nous n'avons jamais rien su de cet homme, ni de son histoire.
La création de cette commission a suivi un scandale en 2015. Des restes humains d'une victime juive de ces expérimentations avaient été retrouvés dans les sous-sols de l'université, ce qu'elle a un temps nié. L'institution met alors sur pied une commission internationale qui a travaillé pendant 6 ans. 150 000 archives ont été retrouvées à Strasbourg, mais aussi en Allemagne. Une partie du fonds a été mise en ligne et est consultable par le public. Mathieu Schneider, vice-président de l'Université de Strasbourg.
L'idée, c'est premièrement de mettre à disposition l'ensemble de la documentation papier et numérique qui a été constituée pour que les recherches continuent, que nous fassions de l'information grand public par le biais d'une exposition ou d'un espace muséal ou de documentation qui soit ouvert à tous.
Une exposition qui va durer 1 an sur les liens entre la faculté de médecine et le camp de concentration alsacien vient d'ouvrir. Elle a lieu au Centre européen du résistant déporté, au Struthof-Natzweiler, dans les Vosges.
Et la journée de l'Europe. On célèbre aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg la mémoire du discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères Robert Schuman le 9 mai 1950, texte fondateur de la construction européenne. Une Europe présente et concrète pour les plus de 5 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui les combats dans leur pays. C'est le reportage d'Alice Roujat en région parisienne.
Roissy en France, c'est une ville coincée entre l'autoroute et le plus gros aéroport parisien. Ses habitants, principalement des voyageurs, résident dans les nombreux hôtels que compte l'agglomération. Et c'est dans l'un d'eux que plus de 300 réfugiés ukrainiens ont posé leurs valises.
Donc c'est un hôtel où il y a aussi de la clientèle.
Et oui. Après un dédale d'escaliers et de couloirs, on retrouve Mohamed. Comme il fêtera ses 60 ans cette année, il n'a pas été contraint de rester sur le territoire pour servir dans l'armée. Alors avec sa femme ukrainienne et sa fille, ils ont fui la région de Kiev après la destruction de leur maison. Quand on les questionne sur leur accueil une fois entrés sur le territoire européen, ils racontent émus son arrivée en Pologne.
J'étais vraiment étonné en rentrant en Pologne, il y avait tout un accueil, vraiment, il y avait plein de nourriture, des trucs d'hygiène, il y avait des vêtements, des jouets pour les enfants. Et voilà, et plus moi je ne mange pas la viande, on rentre là-bas, il n'y avait que de la viande. Je dis, moi je ne suis pas mangeur de viande. Il y a des volontaires là-bas qui m'ont trouvé des pommes de terre, ils ont fait des frites spécialement pour nous et pour ma famille. Vraiment, c'était pour moi, c'est après une guerre, en rentrant d'une autre place avec un accueil comme ça, au moins on était un peu soulagés.
Comme Mohamed, qui ne s'est jamais senti aussi européen qu'aujourd'hui, Olga et ses deux enfants ont traversé la Pologne et l'Allemagne avant d'arriver en France. Originaires de la région de Lugansk, ils se sont installés dans une chambre dont les murs sont déjà ornés de dessins colorés. Pour Olga, l'Union européenne ne peut pas s'engager davantage dans cette guerre.
Si l'Europe s'impliquait plus sur le terrain, cela pourrait se transformer en un plus gros conflit avec l'occupation de nouveaux territoires. Non, ce conflit doit être réglé entre la Russie et l'Ukraine. En fait, je pense que l'Europe fait déjà beaucoup en fournissant l'aide nécessaire aux réfugiés.
Pour Olga, l'Europe, c'est aussi la liberté. Alors elle fera tout pour que sa famille puisse y rester.
Moi, j'aimerais rester en France et aussi étudier la langue. J'aimerais que mes enfants puissent aller à l'école et qu'ils s'imprègnent de cette nouvelle culture. Moi, je continuerai de leur transmettre la culture ukrainienne. Mais ce qui est important, c'est qu'ils comprennent qu'en Europe, on peut grandir librement, sans avoir à se soucier des préjugés.
Olga, ses enfants, ainsi que Mohamed et sa famille, bénéficient d'une protection temporaire décernée par le ministère de l'Intérieur. Concrètement, ça veut dire qu'ils n'ont pas à passer par les procédures classiques d'asile, qui sont très longues en France. Ils sont autorisés à rester au moins un an sur le territoire et peuvent y travailler et leurs enfants aller à l'école. Mais Ariles, qui n'est pas un ressortissant ukrainien, n'a pas les mêmes droits que ses voisins de chambre. Étudiant algérien, il est arrivé l'an dernier à Kiev pour un master en psychologie du travail.
On était parti pour étudier. Donc ce qu'on veut, c'est continuer nos études. On est en contact avec plusieurs universités. Mais pour le moment, la préfecture il demande de chercher une université. L'université dit, vu que vous n'avez pas de carte de séjour, vous ne pouvez pas vous inscrire. Pour avoir la carte de séjour, il faut avoir une inscription. Pour s'inscrire, il faut avoir une carte de séjour. Donc on est en milieu de nulle part. Voilà, on nous a donné une attestation de séjour d'un mois. Pour le moment, on ne sait pas. Le mois est presque terminé, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est dans le noir total.
Et si toutes les personnes interrogées ce matin-là assurent vouloir rester en France coûte que coûte, Ariles, lui, ne tient pas le même discours.
Moi, personnellement, je ne vais pas rester ici sans papier. Ma tête ne va pas accepter ça, je ne vais pas m'adapter à ça. S'il n'y a pas quelque chose ici, je vais me déplacer au pays, je vais me déplacer en Espagne, je vais tenter ma chance. On a choisi la France, déjà on parle le français, on peut s'exprimer. On nous donne quelque chose à signer, on sait ce qu'on signe. Mais la France, pour le moment, elle ne nous donne rien.
Accueillies par l'association SOS Solidarité, les 300 personnes qui vivent actuellement dans cet hôtel reprendront leurs bagages pour s'installer ailleurs, en France ou ailleurs en Europe.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes d'écoute de podcasts favorites. À demain.